19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Et bonsoir à tous, en ce mardi 19 novembre, en live sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, c'est le créneau de Time Sport, votre quotidienne sportive, avec toute l'équipe pour m'accompagner durant une heure. Et ce soir, nous parlerons à travers cette émission de la VAR. Et oui, selon Michel Platini, il a encore parlé. Et ça fait pas plaisir à beaucoup de monde. On accueillera sur ce plateau Gérard Esnes, directeur de la rédaction de France Football, pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Le combat aussi, Tony Yoka contre l'Allemand Christian Hammer, reporté. On verra aussi Thiago Silva qui veut terminer sa carrière du côté du PSG et qui déclare « Je serai parisien à vie ». Sans oublier le Grand Prix du Brésil, on reviendra là-dessus avec le podium le plus jeune de l'histoire tout de même. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
On n'oublie pas, tout au long de cette émission, vous pouvez réagir avec le 01 53 48 3000. Et oui, c'est le numéro du standard, mais aussi sur la tutosphère avec tout. L'équipe de Time Sport. Pour m'accompagner aujourd'hui, on aura Saliou Diouf. Comment ça va, Saliou ?
Salut camarade, en pleine forme, au top du top. Je suis très très bien là ce soir, je suis chaud, je suis motivé, puis on va faire une très bonne émission.
Nous aussi, Saliou, en ta compagnie. Simon Balachev est de la partie. Comment ça va, Simon ?
Buenas noches, ça va très bien. Figure-toi que Maradona a quitté son poste d'entraîneur du Lobo, le Gymnasia de La Plata.
Et tu es surpris ?
Si on veut, ouais, un petit peu, non. Oui et non. Par contre, si on veut fantasmer un peu, on se souviendra que Gustavo Alfaro, l'entraîneur de Boca, est sur le départ, va même partir, c'est sûr, et que Boca n'a toujours pas nommé de successeur. Mais c'est du fantasme un peu. Mais bon, il y a une question de timing.
Hervé Dibi, comment ça va, Hervé ?
Salut Bilal, ça va la femme ?
Ouais, Alison Concou est avec nous aussi, notre consultante. Comment ça va, Alison ?
Ça va très bien, merci.
Eh bien justement, on prend le chemin de cette fameuse VAR avec un grand monsieur qui essaye de revenir sur la scène du football mondial, à Michel Platini.
Time Sport, le ras-le-bol.
C'est chaud pour Michel Platini. C'est chaud aussi pour les personnes concernant cette VAR. Et oui, la VAR est une belle merde, si je peux m'exprimer ainsi. Sur l'antenne de Beurre FM.
On dirait du Jean-Pierre Coff.
Ouais,
moi, quand il le dit comme ça, j'ai la voix de Jean-Pierre Coff qui dirait un truc du genre le VAR, c'est une belle merde, un truc comme
ouais,
ça.
Le VAR, la VAR.
Un truc
VAR.
Un peu odiard. Les mots sont ce qu'ils sont dans la bouche de Platoche. Oui, le VAR, c'est pas Jojo, on va le dire comme ça. Non, je suis pas un grand fanatique du VAR.
Ouais.
À la base, moi j'attendais de voir, personnellement. Si je peux donner mon avis, avant, quand c'était pas en place, je me disais, c'est là dans d'autres sports, pourquoi pas. J'étais un peu dubitatif pour le côté humain, notamment. Pour moi, l'arbitrage est censé être une affaire humaine. Et la technologie me dérangeait un petit peu. Mais pourquoi pas ? Et j'ai vu que les débats ne cessent, n'ont toujours pas cessé. Et ce qui me dérange presque plus, par contre, c'est que la technologie, c'est ça qui me dérangeait à la base, prend le pas sur l'humain à un point déraisonnable. Aujourd'hui, des attaquants vont se faire juger au hors-jeu à un millimètre de bout de lacet, de bout de chaussure. Même pour eux, physiquement, pour jouer, pour essayer de ne pas jouer le hors-jeu, pour ne pas être hors-jeu, au bout d'un moment, ça devient impossible. Donc oui, aujourd'hui, le VAR est une belle merde, oui. Je rejoins les propos de Michel Platini là-dessus. Oui, moi, l'affaire a raté, quoi. Je vois pas trop comment on peut l'améliorer maintenant. On a tout vu avec cette technologie.
Ouais.
Déjà pour commencer, les déclarations de Platini, il y a rien de surprenant parce que, par exemple, quand j'étais au
lycée, toujours été contre.
Quand j'étais au lycée, c'était dans les années 2006, 2007, 2008, on parlait déjà du projet de VAR et lui était déjà opposé en fait, en disant que ça allait tuer le truc, tout ça. Mais pour le coup, donc lui, on peut dire qu'il est droit dans ses bottes et il a ses convictions et il dit tiens. Ouais. Mais le problème du VAR. C'est pas un problème de VAR en lui-même, quoi. C'est pas le problème de la télé qui repasse les images. C'est le problème humain. C'est-à-dire que c'est des gars
en plus,
qui sont dans un camion, mais qui savent pas l'utiliser, ce truc-là.
Le camion ou le VAR ?
Ah, le VAR, bien sûr.
Le VAR.
Parce que le camion, je pense qu'il le conduit jusqu'au stade, y a pas de problème. Ça y arrive. Mais le problème, justement, c'est ces types-là dans le camion qui font que des conneries, c'est tout. Ils font n'importe quoi, ils savent pas l'utiliser, donc c'est un problème de formation
quand même à cela.
Ils font n'importe quoi. Regarde, je vais te prendre un... Et même, il y a au-delà des mecs qui sont dans le camion, il y a aussi les arbitres sur le terrain. Je vais te prendre un exemple concret. PSG Rennes, la saison dernière.
Ouais.
Tacle assassin de Mbaye Niang sur Thilo Kehrer. Le gars mérite un rouge sans problème. Mais le truc, c'est que l'arbitre qui s'appelle Karim Abed va voir la VAR devant tout le monde. Il regarde l'action et il met un jaune. Donc le type, en fait, a vu le tacle assassin et décide de mettre un jaune. Donc à partir de ce moment-là, c'est quoi ? C'est un problème de compétence. On est d'accord ? Puisqu'il avait tous les outils pour donner la bonne décision. Donc c'est un ensemble. Cette saison aussi, pareil, il s'est passé plein de cas similaires. Et puis au final, on se rend compte que les arbitres ne sont pas assez... Enfin, n'ont pas le recul nécessaire pour utiliser
ce
correctement
cette humains, part. C'est surtout
mais oui,
ce
mais
sont
à
des
partir
humains.
D'un moment, si tu regardes, on va prendre un exemple concret. T'es un élève, tu fais un devoir sur table, et à côté de toi, t'as la feuille de réponse qui est cachée par le, enfin cachée, qui est juste à côté de toi, donc tu recopies juste,
ouais.
Puisque t'as tous les éléments sous les yeux. Donc tu fais le moins d'erreurs possible.
Ouais, mais là, t'as une question de jugement, t'en reviens,
l'humain. C'est du jugement, mais faut l'utiliser correctement. Regarde, un deuxième cas concret, c'est aussi le match Marseille-Lyon, où les gars te disent que finalement, il n'y aurait pas dû avoir pénalty, parce qu'il y avait main de Sanson dans la surface, tout ça. Et comment ça peut échapper à ces gars-là? C'est tout. C'est à un moment donné, vous avez un taf à faire, concentrez-vous, faites-le correctement, ou alors, je sais pas, faites une formation plus élaborée dans ce domaine-là, plutôt que de faire des conneries à chaque journée pour qu'on puisse ensuite mettre en question la VAR. Si tu l'utilises bien, il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
Moi, pour
on l'écoute, Alison. Merci.
Une nuance dans un premier temps, quand même, la VAR, faut qu'on se le dise, a permis de rétablir certains cas ou certaines vérités dans la surface de réparation. Après, là où je vous rejoins, par contre,
alors,
c'est que ça reste assez flou. Les restes du VAR restent assez flous. C'est-à-dire, sur la définition de la main, on ne sait toujours pas. Ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Donc,
non, mais ça y est, c'est réglementé, ça. Maintenant, c'est toute position naturelle
oui,
ou pas naturelle.
C'est pas appliqué.
C'est écrit aussi dans les règles du board que c'est à l'appréciation de l'arbitre.
Exactement. Hein. Donc, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Donc, finalement, dans ces cas-là, le VAR ne résolve rien. Parce que avant, c'était à l'appréciation de l'arbitre. Avec ou sans vidéo, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. Donc, passer 30 secondes sur une vidéo, finalement, ça ne sert à rien. Et vous l'avez évoqué, on perd énormément d'humains. Tu parlais, Simon, du hors-jeu, ça devient terrible pour les attaquants. Là, vraiment, c'est des phases de jeu. En plus, qui est sifflé 10 minutes après que le mec soit signalé hors-jeu, pour commencer, c'est terrible et c'est assassin pour le jeu des attaquants. C'est extrêmement difficile. Pour moi, on était sceptiques. Beaucoup de personnes étaient sceptiques à l'arrivée du VAR dans les grandes compétitions. Et ben, c'est en train de se démontrer. Finalement, le VAR aujourd'hui est beaucoup plus critiqué et démontre une efficacité qui n'est pas prouvée, qui reste à prouver, plutôt que le contraire.
Justement, des réactions avec Hichem et aussi Sabrina pour les non spécialistes du football. Le VAR est incompréhensible.
Bah, oui, tiens.
Hervé.
Moi, j'entends beaucoup de consultants et autres observateurs du football dire que la VAR c'est nul, dire que la VAR tue l'essence du football. Mais moi, j'aimerais juste rappeler, la plupart de ces personnes sont les mêmes personnes qui criaient à l'injustice en 82 après l'attentat de Schumacher sur Battiston. Ce sont les mêmes personnes qui se sont offusquées en 90 après la main de Vata. Ce sont les mêmes personnes qui disaient que la Corée du Sud avait été favorisée en 2002 après ses huitièmes et ses quarts de finale contre l'Italie et l'Espagne. Ce sont les mêmes personnes qui, tous les 2-3 ans, chialent, excusez-moi le terme, en disant que le Barça est avantagé par l'UEFA. À un moment donné, on peut pas jouer les progressistes aujourd'hui, dire que le football doit s'inscrire dans la modernité, dans l'ère du temps, et le lendemain jouer les vergers effarouchés en disant que non, la VAR, ça tue l'essence du football, que la VAR c'est une régression. Non, je pense que comme l'a dit à juste titre Saliou, c'est pas l'outil VAR qui est problématique, c'est la façon dont la VAR est utilisée. C'est pas, moi je trouve ça quand même incroyable. On est le seul sport qui soulève autant de dont l'utilisation de l'assistance vidéo soulève autant de controverses. L'assistance vidéo est utilisée au tennis sous la forme du hokai, c'est utilisé au rugby, au basket, on n'entend pas autant de polémiques. on n'entend pas autant de controverses. Mais au football, on est tellement con, on est tellement idiot qu'on n'arrive pas à utiliser la VAR. À un moment, faut pas déconner. Et Michel Platini, avec tout le respect que j'ai pour lui, en parlant d'idées de merde.
Ouais, mais il est sur tous les fronts. Le roi
24. Je sais qu'avec Simon, on n'est pas d'accord, mais
c'est
quand même une idée de merde quand même aussi.
Pourquoi Hervé?
Et vive la Finlande qui va jouer son premier Euro.
Juste vive la Finlande, mais encore une fois, c'est pas la VAR qui dérange, c'est l'utilisation de la VAR. C'est pas à cause de la VAR si aujourd'hui le board a eu la bonne idée de sanctionner de la même manière les mains involontaires ou les mains volontaires. Je pense que c'est les mecs du board qui doivent se remettre en question et chercher à sublimer cet outil, tout simplement.
Est-ce que le comble, l'apogée du progressisme, justement, ce serait pas de tout miser sur la formation des joueurs, dès le plus jeune âge, à la relation avec l'arbitre? C'est ça qui est important. D'apprendre dès le plus jeune âge que l'arbitre fait partie du jeu, que le regard de l'arbitre fait partie du jeu, que l'erreur fait partie du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas plus... Le sport, si on revient, là on oublie le spectacle, etc. Le sport est censé être une école de la vie.
Mais non, mais...
Attends. Le sport est censé être une école de la vie. Il est censé véhiculer certaines valeurs. Il est censé véhiculer certaines philosophies. Est-ce que ce serait pas là le summum de l'esprit sportif de d'écarter le tout technologique, ce côté manichéen, le oui, non, faute, pas faute, à apprendre apprendre au plus jeune, dès le plus jeune âge, à comprendre les finesses de l'esprit humain, le fait de voir que l'erreur est humaine, que tout est possible et que c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il faut agresser une personne pour cela.
Le football de salon là. Le football, voilà, c'est des sensations, c'est une adrénaline.
Bah justement.
Donc à partir d'un moment, tu peux avoir toute l'éducation que tu veux quand t'es jeune, mais quand t'es sur un terrain de football et que tu vrilles parce que t'es dans le jeu, t'es dans le move en fait, t'es dans le truc, tu peux vriller à tout moment en fait. Et c'est pas une éducation auparavant qui va te faire faut qu'on
s'analyse.
Mais
peut-être pas toi, peut-être pas le joueur qui vrille, en effet, je comprends. Mais justement, ces joueurs-là sont humains aussi, ils vrillent. Mais peut-être que ses coéquipiers, le staff autour de l'ensemble sportif autour d'eux saura les calmer, saura justement avec cet esprit. Mais bien sûr qu'il y en aura toujours. Mais tu peux arriver à minimiser en formant les plus jeunes à ce genre de choses.
Bref,
je te sens dubitatif.
Complètement.
Dans le sens où les mecs, c'est les compétiteurs, ils veulent gagner à tout prix, tu vois.
Ça n'empêche pas de respecter l'arbitre, hein,
Les rugbyman veulent gagner à tout prix, respectent l'arbitre. Hein.
Mais qui a manqué de respect à un arbitre? Citez-moi une situation. Donnez-moi une situation concrète.
Attends,
un arbitre qui a été manqué de respect.
Sur tous les terrains, tous les week-ends, il y a des arbitres.
Oui, mais moi, je ne parle pas des oubliés.
Je parle de football. Citez-moi un cas.
Il y a un arbitre qui aurait mérité de se faire emplâtrer, c'était Aitekin.
Tiens, mais regarde.
PSG Barça, il aurait mérité de prendre un coup de boule.
Tu parles d'emplâtrer et de mettre un coup de boule.
C'est violent ce que tu dis quand même. C'était hier le MMA.
Si on parle de situation concrète en disant un joueur peut s'énerver ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Donc attendez, je fais pas l'apologie de la violence. Hein. Attention.
Mais quand même pas, c'est interdit.
Mais voilà, c'est dans une situation comme ça, il y a rien eu. C'est pour ça que je vous dis, il y a jamais eu une situation très grave avec un arbitre. Moi, j'ai jamais vu un arbitre se faire attraper par le col ou quoi que ce soit. Donc vous êtes là, vous.
Merci.
Ça comme
Salio.
Si les arbitres étaient des victimes tous les week-ends.
Cantona à Nîmes contre Saint-Etienne qui jette le ballon sur l'arbitre. Dicalio qui met un coup de pied à l'arbitre.
Il y en a plein, rien que les discussions,
rien que la véhémence, qu'est-ce que ça véhicule comme
ça? C'est pas des petits enfants, ils vont pas pleurer, c'est bon.
Véhémence, un respect.
Oui, mais
assez intense ce premier débat et cette première partie.
Tu empêcheras
de t'amuser.
Oui, rapide.
Viril mais correct.
Tu empêcheras aucun joueur d'être humain, en effet, de péter une durite. Ceci dit, si à la base, tu ne fais pas les efforts sur la formation pour éviter cela, tu ne fais rien. Et la technologie,
mais
c'est pas ça qui
va résister. Il n'y a jamais eu de violence.
Allez, on passe à l'invité de ce soir. Time Sport. Bonsoir Gérard Agnès, directeur de la rédaction de France Football, qui est avec nous ce soir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ben ça va très bien, je vous entends. Là, c'est plein de passion.
C'est vrai. Dans la joie et la bonne humeur dans cette émission qui est Am Sport. Alors, Gérard, que retenez-vous justement? On va s'attarder sur
toutes ces années passées dans ces prestigieuses rédactions de sport, notamment nos confrères de l'équipe, mais aussi France Football, et aussi comment est venue cette idée, encore une fois, de faire ce magnifique, on le rappelle, Livre d'Or Football, édition 2019, chez nous, chez la maison d'édition Solar. On vous écoute.
Ah bah écoutez, alors c'est fait chez Solar et également avec l'équipe, c'est une coédition Solar et l'équipe, hein, je tiens à le préciser. Mais ça fait longtemps, hein, que j'ai fait ce livre. Je crois que je l'ai écrit pour la première fois.
Oui, on vous écoute.
J'ai écrit ce livre pour la première fois, il existait déjà avant, en 1991, donc vous voyez, ça remonte. Beaucoup de vos auditeurs n'étaient pas nés,
je pense.
Mais voilà, après, c'est la passion du foot, simplement. C'est exactement la même raison pour laquelle vos intervenants viennent de s'étriper, là. c'était super sympa.
Mais on s'aime bien, quand même. Sympa.
Mais bien sûr, heureusement. donc c'est la chance d'être journaliste dans un grand média, forcément, à l'équipe, à France Football, c'est une chance extraordinaire. Et puis, c'est l'envie de partager, de faire partager des choses qu'on vit, des choses qu'on voit au quotidien, parce qu'on a la chance d'être sur les grands événements, de les suivre, d'être au contact des grands joueurs de football, des entraîneurs, des présidents. Et quand on sait quelle passion déchaîne le football, quel enthousiasme, mais on peut pas ne pas avoir envie de la répandre partout où on peut.
Justement, Gérard, on aimerait s'attarder avec vous à travers ce livre, sur cette édition 2019, le succès, mais aussi la relation que vous pouvez avoir avec nombre de joueurs. Le préface est signé par Sadio Mané, finaliste de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par les hommes de Djamel Belmadi et la sélection algérienne. Aussi, on pourrait retrouver Atem Ben Arfa, le cas du Paris Saint-Germain, dominateur dans cette Ligue 1 Conforama et en France, et sans oublier ce qu'on pourrait trouver, l'épopée de l'après championnat du monde et cette deuxième étoile des Bleus. Ce qui est le plus intéressant sur cette édition, pour vous, ça a été quoi? Ça a été quelle partie?
Si vous voulez, il faut dire la vérité. La saison 2018-2019, puisque c'est de ça qu'on parle, si on se situe au niveau du football français, hein, bien sûr, n'a pas été la plus enthousiasmante. On n'a pas eu le plus beau championnat. On n'a pas eu les plus belles performances en Coupe d'Europe, notamment en Ligue des Champions. On n'a pas eu les plus beaux matchs de l'équipe de France. Il y en a eu quelques-uns qui étaient bien, mais pas que. Mais on a eu quelque chose de très important. C'est la confirmation, même si on en avait pas besoin parce qu'on savait que ça allait arriver. Mais la certitude que Kylian Mbappé allait devenir un joueur extraordinaire. Il n'est pas encore possible de le situer dans une hiérarchie puisqu'il va avoir 21 ans, je crois. Mais c'est lui qui fait la couverture de ce livre. C'est lui qui fait l'ouverture avec le premier chapitre de ce livre. On apprend notamment qu'à 20 ans et 5 mois, il a marqué son 100e but. Toutes compétitions confondues, et qu'il est très 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 en avance par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui chez ceux qu'il tutoie désormais, c'est-à-dire Lionel Messi par exemple, qui lui avait 22 ans et 3 mois quand il a mis son 100e but officiel, Cristiano Ronaldo 22 ans et 11 mois, Thierry Henry 24 ans et 1 mois. Donc en gros, il a 2 ans voire 3 ans d'avance dans ses statistiques sur ces immenses champions, et ça veut dire que son horizon est sans limite. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus passionnant, c'est d'assister à l'émergence d'un joueur phare, d'un joueur extraordinaire. Alors il se trouve qu'il est français, ça tombe bien évidemment, et de voir jusqu'où il va aller, jusqu'où il va repousser les limites non pas ses propres limites, parce qu'on ne peut pas repousser ses propres limites, ouais. mais jusqu'où il va repousser les limites des autres, jusqu'où il va aller plus loin que les autres. Alors, 1000
buts peut-être, on peut penser à 1000 buts. Aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire du millième but de Pelé.
De Pelé, le roi du ballon, ouais, c'est
tout
pas
à fait. Et Cristiano Ronaldo vient de marquer il y a très peu de temps son 700e but.
Ouais.
Donc, on voit bien que c'est un objectif que Mbappé peut atteindre. Donc ça, c'est passionnant. Alors ça, ce sont les statistiques individuelles. Après, évidemment, il y a le palmarès. Et le palmarès, c'est autre chose. Mbappé, lui, sépare bien les deux choses. Il explique, d'ailleurs, dans le livre, que pour lui, aujourd'hui, le football, dans le football, il y a deux paramètres. Il y a la performance individuelle, qui pour lui est essentielle. Pour lui, marquer des buts, accumuler des sélections, des matchs, c'est essentiel. Mais évidemment, il sait bien que pour avoir le ballon d'or, ça ne suffit pas. Il faut le palmarès. Et c'est derrière ça qu'il va courir maintenant, parce que Mbappé, il veut le ballon d'or, hein, il s'en cache pas. Alors j'imagine qu'il l'aura pas cette année, mais il va l'avoir. Où va-t-il l'avoir? Ouais. J'en sais rien. Grâce à quel triomphe?
On verra bien.
J'en sais rien,
ouais.
mais on imagine qu'il va l'avoir. Et c'est en cela que sa carrière est passionnante, c'est en cela qui méritait largement de faire la couverture et l'ouverture de ce livre d'or 2019.
Vous restez avec nous, Gérard Reznes, on le rappelle, pour ce magnifique livre d'or football, édition 2019 aux éditions Solar. Quelques réactions à venir avec toute l'équipe de Tamsport et aussi au 01 53 48 3000. A de suite.
Tamsport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Tamsport avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, en compagnie d'Alison, Saliou, sans oublier Simon et Hervé. Vous pouvez réagir au 01 53 48 3000 pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Gérard Reznes, directeur de la rédaction de France Football. On retourne avec lui et une réaction avec toi, Saliou.
Absolument, bonsoir. Alors, Gérard. Déjà, concernant votre édition de cette année, vous avez parlé tout à l'heure du football français. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que ce sera pas compliqué d'écrire l'édition 2020-2021 au vu du niveau du football français qui régresse d'année en année?
Ah, alors là, on parle de l'édition 2019-2020.
Oui, oui. Vraiment se projeter,
mais,
se projeter sur
alors le non, football. Alors c'est... Oui, non, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas moi qui décide si c'est difficile ou pas difficile. Le football français de club.
Championnat de France, on va dire, pour être plus précis.
Voilà, de club. Alors, championnat de France, c'est difficile de juger du niveau du championnat de France. En revanche, le comparatif, il se fait au niveau des Coupes d'Europe. Quand on joue entre nous, on peut toujours dire que les matchs sont bien, sont pas bien. Ça donne pas vraiment un niveau. En revanche, quand Saint-Etienne et Rennes jouent en Ligue Europa contre des clubs qui sont pas les plus grands clubs d'Europe, quand même, hein, faut connaître, et qui ne s'en sortent pas, là, effectivement, on a un repère qui est important et qui montre que notre football stagne. Je ne veux pas dire qu'il régresse, au moins il stagne alors que les autres progressent. Pourquoi? Parce que en Ligue 1, ça joue pas assez. Voilà. La Ligue 1 est un championnat très défensif. D'ailleurs, cette année, il y a une chute terrible de la moyenne des buts par match. Et en Coupe d'Europe et même en Ligue Europa, on rencontre une équipe ukrainienne, une équipe danoise, une équipe norvégienne. Ce sont des équipes qui jouent. Et les équipes françaises sont pas habituées à ça. Elles sont habituées à jouer contre des équipes qui calculent. Et le championnat de France, je dirais, le championnat de France ne prépare pas à la Coupe d'Europe, ou le prépare pas bien. Alors évidemment, à l'exception du Paris Saint-Germain, qui a un effectif surdimensionné pour la Ligue 1, de Lyon, qui a une culture, je dirais, de la Coupe d'Europe. Alors sans atteindre des résultats extraordinaires, on n'attend pas non plus de Lyon qu'il aille gagner la Ligue des Champions. Mais Lyon, bon an, mal an, même en étant à la peine en Ligue 1, s'en sort plus ou moins, s'est qualifié la saison dernière pour les huitièmes de finale, bon, après pour buter contre le Barça, mais là, il n'y a rien à dire. Cette année, ils ne sont pas si mal placés pour atteindre encore les huitièmes de finale, c'est pas mal. Mais effectivement, la Ligue 1, on est tous pareils. On va dans un stade, on se met devant notre télé pour voir un match, et on espère le meilleur. Très souvent, on a le pire. Voilà.
Est-ce que Gérard, on pourrait pas, c'est très important à mon sens que vous dites sur la culture européenne que développe Lyon. Est-ce que justement en France, on n'a pas un complexe européen? Est-ce qu'on n'a pas du mal à capitaliser sur des éventuels savoir-faire que certains clubs pourraient se créer au niveau européen? On a l'impression que certains clubs qui pourtant viennent régulièrement à cette échelle-là, sur les compétitions continentales, comme Saint-Etienne, par exemple, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à capitaliser sur leurs leurs expériences passées, là où d'autres clubs en Europe, justement les Ukrainiens du Shakhtar par exemple, arrivent à garder les joueurs passent, mais le club garde un savoir-faire européen. Pourquoi en France on n'arrive pas à garder ce savoir-faire?
Pourquoi? Mais regardez comment ils jouent. Ils jouent pas du tout comme les équipes françaises. Alors après, effectivement, c'est difficile à expliquer parce qu'on pensait que la saison dernière, au niveau européen, Rennes avait franchi un cap. Il y a eu des bons résultats. Bon, cette saison, ils retournent en Ligue des Champions. Ils sont catastrophiques. Ils ont été catastrophiques en Europa League. Ouais. Éliminés en 4 matchs, vous vous rendez compte. Éliminés en 4 matchs, c'est ce qui arrive aux Luxembourgeois et aux Chypriotes. Hein. C'est de ce niveau-là. Donc, effectivement, on peut s'interroger. Après, on dit ils ont perdu 6 joueurs. Mais enfin, en moyenne, les équipes, elles perdent 10 joueurs par saison, pas 6 joueurs. Et puis, ils en ont pris d'autres, il me semble. Donc voilà, c'est très difficile à expliquer. Je crois que le jeu tel qu'il est pratiqué en Ligue 1 ne prédispose pas à briller dans les compétitions européennes. Voilà. Alors après, on va toujours tomber sur des exceptions. On a quand même eu, faut pas oublier, il y a 2 ans, l'OM, même si l'OM est un grand club qui n'a pas toujours des bons résultats, mais un grand club qui est arrivé en finale de la Ligue Europa. C'est pas rien.
Ouais, et c'est mis les pieds dans le tapis l'année d'après. Encore une fois, on a un exemple de club qui n'a pas su capitaliser cette expérience.
Au tapis. Alors voilà. Donc, effectivement. Bah alors pourtant l'OM, on peut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience, ils l'ont gagné la Ligue des Champions. Alors ça remonte à il y a très longtemps.
En plus, ils avaient gardé une partie de leurs joueurs.
Oui, ils avaient gardé. Alors voilà, c'est pourquoi il n'y a pas de continuité. Bah c'est difficile à expliquer. Moi, la seule réponse je trouve, c'est dans le jeu. Voilà, si on prend pas de risque, on passe pas, on va passer une fois de temps en temps par concours de circonstances en Coupe d'Europe. Mais on passera pas. Globalement, on passera pas. Or, les équipes françaises sont beaucoup trop frileuses pour affronter l'Europe. Voilà, on le voit année après année. Les équipes qui se battent pour se qualifier pour une Coupe d'Europe et qui derrière balayent tout ça, semblent même pas s'y intéresser. Mais je crois que c'est pas qu'elles s'y intéressent pas, c'est qu'elles n'ont pas le talent, elles n'ont pas le niveau, elles n'ont pas l'état d'esprit pour briller, parce qu'il devrait y avoir au moins chaque année au moins une équipe en Ligue Europa qui s'illustre. Or, c'est pas toujours le cas, c'est même loin d'être le cas.
On va terminer avec toi, salut.
Je vais même juste ajouter un complément, en fait. C'est le Luxembourg est au-dessus de la France, puisque en Europa League, en France, cette année, 0 victoire, tandis que le Luxembourg, au moins une victoire.
Oui, oui.
Donc le Luxembourg est au-dessus, et ça, c'est dramatique.
Ouais. Faut pas le dire, parce que personne n'a envie d'entendre ça.
Ouais, c'est vrai, pas faux, Gérard. On termine. Hervé, avec toi.
Bonsoir Gérard. En préambule de cette émission, on a eu un débat assez enflammé sur la VAR. Mmh. Du coup, moi, je voulais avoir votre regard justement sur la VAR et son application actuelle.
Alors là, je vais être un peu toujours pinailler, rentrer dans les détails. Moi, je vais être très clair là-dessus.
Oui.
Aujourd'hui, ou peut-être hier, je ne sais pas trop, on a fêté les 10 ans. On l'aurait pas vraiment fait la fête, mais on a fêté, c'est une expression, les 10 ans de la célèbre main de Thierry Henry. La main de Thierry Henry qui, quelque part, a détruit ce joueur, a pourri sa fin de carrière. Eh ben, je peux vous dire que le VAR l'aurait sauvé, Thierry Henry. Parce que le but n'aurait pas été accordé, la France n'aurait pas été forcément éliminée, parce qu'à ce moment-là, elle était menée 1-0, elle avait gagné 1-0 à l'aller, on serait peut-être allé en prolongation, au but, mais enfin, la France n'était pas éliminée. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe pour tout le monde. Qualification un peu honteuse. À l'étranger, on n'a parlé que de ça, que de cette main. Mais rien que pour ça. Le VAR méritait d'être inventé, méritait d'exister. Après, si c'est pour dire que c'est pas parfait.
Ouais.
Oui, forcément, puisque devant les écrans de télé, il y a toujours des êtres humains. Donc, c'est pas parfait. Mais les franchement, 90% des fautes qui n'étaient pas sifflées avant, ou mal sifflées, ou mal interprétées avant, maintenant le sont de façon positive. Il restera toujours la marge sans laquelle on pourrait même plus faire de débat à la radio et à la télé. Alors heureusement qu'il y a un arbitre qui fait comme ci, un autre qui fait comme ça. Bah voilà, c'est des décisions humaines, ils regardent leurs écrans, l'un aurait donné péno, l'autre aurait pas donné péno. Eh ben, on va s'étriper, on va s'écharper pour ça, et c'est sensationnel. Mais moi, je suis à 1000% pour la vidéo. Si elle fonctionne, vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et j'ai été très séduit par son discours, de dire si ça existe en rugby, si ça existe en tennis, si ça existe en basket, si ça existe en volleyball également, et ça ne pose pas de problème, pourquoi ça pose des problèmes au foot? Mais simplement parce que c'est un sport qui génère plus de passion. C'est la seule raison.
Exactement.
Sinon, bon, bah, voilà. Il y avait des erreurs avant. Il y en a moins maintenant. Il y en a encore. et quand on en discute, on se révolte, on se rebelle, on n'est pas content, on est content. Quand ça favorise votre équipe, vous êtes content. Quand ça favorise l'équipe adverse, vous n'êtes pas content. Mais au bout du compte, c'est un progrès sensationnel.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ouais.
J'aurais pas mieux dit.
Très pertinent. Il a tout dit, selon Salio. C'est ça.
Bon, ouais,
Gérard. Esnes, on le rappelle.
Non, mais c'est juste mon opinion. Hein. J'accepte tout à fait. Si c'est une opinion contraire, ça me gêne pas. Hein.
Non, mais tout à fait. Il y a tout a été dit, tout simplement. Le livre d'or de football 2019 aux éditions Solar. Oui, préface de Sadio Mané, on le rappelle. Voilà, concocté par Gérard Esnes, directeur de la rédaction France Football. Pour terminer rapidement.
Une question totalement hors contexte.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ces dernières années, par exemple, les conflits qui opposent les clubs de foot et certaines rédactions de presse écrite, en l'occurrence l'équipe face au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi.
Oh là là, je pense que c'est la loi du genre. Alors moi, si je devais revisiter ma carrière, le nombre de conflits que j'ai eu avec des clubs, avec des joueurs, avec des entraîneurs, avec des sélectionneurs,
Mais
c'est comme ça.
C'est comme ça.
Mais bien sûr, il y en a toujours eu. Bon, ben, après, c'est vrai que maintenant, plus les enjeux économiques sont forts, ils sont de plus en plus forts, moins les clubs acceptent les critiques, les remises en cause, parce qu'ils pensent que ça les affaiblit, qu'il y a des risques peut-être financiers, parce qu'un sponsor va penser que si, un sponsor va penser que ça, et un annonceur que si, que ça. Bon, voilà. Nous, la différence entre les journalistes et les gens du milieu du football, c'est que les gens du milieu du foot, ils se fâchent avec les journalistes, mais que jamais un journaliste ne s'est fâché avec quelqu'un du foot. C'est ça qui est important.
Oui, ça faut le rappeler, vous faites si bien de le rappeler ce soir sur l'antenne de Beurre FM. On le rappelle, le livre d'or football 2019 aux éditions Solar, avec un préface signé de l'international sénégalais Sadio Mané et concocté, on le disait, par Gérard Agnès, directeur de la rédaction France Football. Un grand merci et un plaisir de vous avoir accueilli dans cette émission.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci Gérard. Bonne soirée.
À bientôt. Au revoir.
On poursuit cette émission avec du Noblard.
Time Sport, la victoire.
Tu en veux du Noblard? Tu veux de la boxe ce soir?
Toujours du Noblard.
Eh oui, toujours.
On a un
toujours
bon Noblard.
Le combat. Le combat de Tony Yoka contre l'Allemand Christian Hammer reporté. Tony Yoka a-t-il la poisse? En tout cas, il est vraiment triste, mais beaucoup triste, à l'annonce du report dû à une blessure du boxeur allemand. Que dire? Eh oui, que dire? On s'attendait, prévu pour le 7 décembre, le combat entre Yoka et Hammer a été reporté à une date ultérieure, annonce Jérôme Habitbol. Le promoteur du boxeur français, l'Allemand, souffre, on le rappelle, d'une blessure l'empêchant d'affronter le grand géant français, qui s'est dit très déçu dans les délais prévus. Un mot à dire?
Sadio. Miskin. Je pense que.
Traduction, s'il te plaît.
Bah, le pauvre. Je pense que son promoteur peut aussi lui trouver une auto-position. Je sais pas, trouver un adversaire qui peut se mesurer justement à ce grand boxeur français.
Ouais.
Pas un sparring partner, mais un adversaire qui peut justement.
Mais ça se fait pas comme ça. C'est pour ça que ça prendra du temps. Mais Tony Yoka est.
Alors,
coupe la parole.
Allison,
Tony Yoka est triste parce qu'il a faim. Il a faim de titre. Il a faim de démontrer que, pour reprendre ses mots, que ce soit il veut prouver que c'est le meilleur.
En
poids
Europe.
Lourd. Non, poids lourd français.
Ouais.
À travers le monde. C'est pour ça que Tony Yoka est déçu, miskin, comme tu dis. et voilà, et surtout l'annulation de son combat et la blessure de Christian Hammer, ça pose un problème logistique, parce que du coup, si le combat est amené à être joué, du coup, ils n'ont plus de salle, ils n'ont plus de date.
Vous devez se faire à l'Accor Hotel Arena, hein, pour le rappeler.
Exactement. Et donc là, ils n'ont plus de salle, ils n'ont plus de date. Tony Yoka doit justement retrouver des sparring partners. Il ne sait pas où il va s'entraîner prochainement. Et de surcroît aussi, on peut dire que financièrement, ça ne l'arrange pas non plus. Parce que, à mon avis, il devait empocher une bonne somme, une belle somme à l'issue de ce combat. Donc, ça remet un peu en question ses plans d'ici à la fin de l'année.
Alicia, on en a du mal, hein, on dirait, à lancer sa carrière à Tony Yoka à l'échelle européenne, outre les frontières françaises, mais voilà, à l'international.
À l'international, c'est compliqué. En tout cas, en France.
On ne comprend pas pourtant médaillé d'or au JO de 2016.
Médaillé au JO, en France, ça se passe bien pour lui. Anthony Yoka, c'est devenu une star. Il a redoré le blason un peu de la.
En même
de
temps,
la
il combat contre des peintres aussi.
Il a signé.
Oh non,
il a signé un contrat avec Canal Plus.
Oui, nos confrères de Canal Plus.
Tous ces matchs de boxe. Mais c'est vrai qu'à l'échelle internationale, c'est beaucoup plus compliqué. Après, on a des boxeurs internationaux. Qui ont plus de carrière, de charisme et qui sont un peu plus aimés au niveau de la boxe, je parle, mais c'est vrai qu'à l'international, ça pêche encore pour Tony Yoka.
Ouais, il n'est pas encore reconnu, on ne sait pas pourquoi.
Mais justement, pour.
Alors, Sadio.
Justement, Hervé vient d'en parler, mais c'est pas pour le mettre en porte-à-faux, alors de le juger de façon. De façon négative, mais on dit souvent qu'il boxe contre des vigiles de supermarché à chaque fois.
Ça se fait beaucoup maintenant. Hein.
Et peintre maintenant, vigile de supermarché, on va. Il y a quoi le prochain, c'est quoi
laisse-moi développer.
Rapide, avant la pause.
Est-ce que justement ça lui enlève un peu de crédibilité sur le plan international?
C'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant. Choisir son partenaire de boxe, ça se fait beaucoup. Anthony Joshua le fait. Mayweather le faisait à l'époque.
Oui, hier, Jean-Philippe Lustig le disait. Comparé à avant.
Bien sûr.
Ouais, c'est pas faux.
C'est une grosse tendance à l'heure dans la boxe.
Personnellement, j'aurais juste une pensée pour le boxeur allemand Christian Hammer qui a quand même pris un gros coup de marteau.
Oh là là. Ah, mais bon. voilà, ça c'est, ouais, c'est la minute c'est Simon Balaché. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient de suite avec le Grand Paris Saint-Germain et aussi le Grand Prix du Brésil en Formule 1.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie, toujours accompagné de Simon Balachef, de Hervé Djibi, sans oublier Sadio Diouf et Alisson Nkunku. Justement, on va s'attarder sur le club de la capitale française.
Time Sport. Le duel.
Eh oui, entre son club et lui. Thiago Silva, eh oui, il veut terminer sa carrière au PSG, déclare « Je serai parisien donc à vie ». Quelle belle déclaration pour le joueur tant aimé par Sadio. Le comprenez-vous et pourquoi donc?
Bah, Thiago Silva, déjà, c'est un franco-brésilien. Officiellement, c'est vraiment ce qui est marrant, c'est que c'est un garçon qui est arrivé en 2012 et qui s'était pas adapté justement à la vie parisienne pendant 6 mois. Il pleurait tous les jours, enfin pleurait.
Ça voilà. Un peu quand même.
Non, mais je rigole pas. C'est vrai, il pleurait souvent. Et il voulait retourner à Milan.
Comme au mondial.
Et il avait prévu justement de finir la saison pour repartir à Milan. Et au final, tu vois que plusieurs années plus tard, le gars est attaché à Paris. Et moi j'ai très peur en fait pour lui parce que sa prolongation en fait elle se jouera en février, c'est-à-dire que Paris doit passer le cap des huitièmes, des quarts de finale, ainsi de suite. Et c'est là qu'en fait on se dira, est-ce qu'on continue? Leonardo, je pense que c'est comme ça qu'il réfléchit, est-ce qu'on continue justement avec Thiago Silva et consorts, ou alors on passe à une autre génération pour pouvoir justement passer un cap, le cap des huitièmes, des quarts, des demi. Et ça voudrait dire qu'on arrête un cycle, le cycle Thiago Silva, donc on le prolonge pas. Mais c'est vraiment justement ce moment-là. Donc lui, il parle, c'est la deuxième fois qu'il parle de prolongation. Il est en train de faire pas la pitié, parce qu'il mériterait, selon moi, parce qu'il est exemplaire depuis le début de saison. Mais c'est pas maintenant que ça se jouera, Thiago. Concentre-toi, fais tes matchs. Quand les huitièmes arriveront, voilà, sors-les sur la table. Et puis voilà, ça passera quoi. Tu finiras ta carrière à Paris, il n'y a pas de problème.
On l'espère en tout cas pour le Paris Saint-Germain.
Sportivement, évidemment, il y a 2-3 détails, certaines choses que l'on peut reprocher à Thiago Silva. Nul n'est parfait.
Mais attention.
Néanmoins,
parce que tu dis sportivement, mais sans lui cette année, ça a toujours pêché.
Excuse-moi. Bon,
je t'en prie.
Néanmoins, Thiago Silva, depuis 2012, c'est juste le capitaine de l'ère la plus prolifique du club. Voilà, ça se pose là, point barre, dans l'histoire du club. C'est un des plus grands défenseurs de la décennie. J'ai pas dit le meilleur, c'est un des plus grands défenseurs de la décennie. C'est un joueur donc qui a entré dans l'histoire du club, qui a entré d'une certaine manière dans l'histoire du Brésil. Ensuite, il y a de l'humain. Parce que comme tu l'as dit, il a fini par tomber amoureux de cette ville. Il y a de l'humain parce que sa famille s'est énormément plu dans cette ville. Ses enfants sont bien implantés. Ça, c'est le petit doigt qui cause. Mais quand c'est pour des choses positives, ma foi, ça fait pas de mal. Mais à mon sens, ça se jouera cette fin de Thiago Silva au Paris Saint-Germain.
Est-ce pour toi,
ça va résider dans son acceptation du crépuscule. C'est-à-dire que pour terminer sa carrière dans un club aussi concurrentiel et compétitif que le Paris Saint-Germain, il va falloir accepter qu'à 35, 36, 37 ans, en restant là, il va falloir à un moment passer le brassard, passer du temps de jeu de plus en plus pour éventuellement à la fin n'en avoir que très peu pour peut-être passer dans le staff. C'est là que ça va se jouer. J'espère pour lui, en disant cela, qu'il a en tête qu'il va falloir mettre son ego de titulaire de côté à un moment donné, forcément, pour laisser la place à ce que sera le futur de la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Pour moi, ça se joue là. C'est là que ça va se jouer avec Leonardo. Ouais. Et je pense que Leonardo est assez humain pour le convaincre de ce point de vue-là et aussi pour l'écouter. C'est très important.
Alisson, le cas de Thiago Silva.
Tout a très bien été résumé. Thiago Silva, vraiment, c'est l'un des pionniers de l'ère qatari au Paris Saint-Germain. C'est le capitaine emblématique, justement. Tu l'as très bien dit.
Pour vous, c'est le capitaine emblématique.
C'est le capitaine emblématique. C'est le titre Paris rénové, de ce nouveau Paris, honnêtement. Et c'est ça. Après, dans ses déclarations, on sait très bien que Thiago Silva, c'est un joueur qui s'exprime très peu, vraiment, sur ses plans d'avenir et sur sa carrière. Donc, malgré son petit appel du pied pour une éventuelle prolongation, il le sait, c'est un joueur intelligent, Thiago Silva. Il le sait qu'il ne finira pas sa carrière en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. Donc, il faut aussi, il était là pour inscrire ce renouveau du Paris Saint-Germain. Il faut qu'il y ait cette espèce de transition. Il en est tout à fait capable. C'est ce passage de flambeau pour qu'il laisse derrière lui un Paris Saint-Germain solide. Donc Thiago Silva, et il y a tout l'aspect humain, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez très bien dit. Il finira sa carrière au Paris Saint-Germain, il est épanoui et grand bien lui fasse.
On parle juste rapidement, Hervé, parle toujours, on fait des gorges chaudes, à raison, sur le statut de Cavani dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est vrai, les supporters le font, mais j'espère que les supporters ont vraiment conscience du poids de Thiago Silva dans l'histoire du club. C'est tout, franchement. J'ai vraiment l'impression qu'il. J'espère vraiment
que Thiago Silva rentre dans l'histoire
qu'ils ont
ce
conscience
club de la capitale.
De ce qu'est cet homme dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
Selon toi, Simon. Les gens ne le réalisent pas, comme tu dis, il a un impact incroyable sur ce.
Salut, et on termine avec Hervé.
Quand il partira, on se rendra compte de ce que Thiago Silva a fait pour le Paris Saint-Germain.
On l'espère.
Seulement
Alisson,
quand il partira.
Merci.
À écouter mes copains, en fait, il va prolonger, c'est une certitude. Attention.
Non, moi j'ai vraiment. Dit que c'est là où je serais viré. J'ai mis du conditionnel.
Voilà, soyons prudents. Parce que, faut vraiment mettre du conditionnel parce que. Moi, je pense vraiment que ça serait la quatrième désillusion en huitième de finale. Là, ça basculerait vraiment tout de tout. Donc, il suffit que le PSG fasse une dinguerie en huitième de finale, et là, c'est tout le monde qui dégage.
Après, il y a perdre, tu vois.
Oui, il y a perdre, mais quatrième fois pour le PSG en huitième, ça la fout mal. Donc, vraiment, prenons des pincettes, quoi.
Que Thiago Silva veuille terminer sa carrière au Paris Saint-Germain, franchement, j'ai pas de doute. Après qu'ils disent qu'il sera parisien à vie, je pense qu'il est juste un peu de caresser dans le sens du poil les supporters parisiens. Voilà, enfin quand tu gagnes 12 millions d'euros par saison, tu vois, tu peux jouer à Bagdad, tu diras que tu t'habiteras à Bagdad toute ta vie aussi, tu vois.
Un peu démagogue.
Je suis pas sûr.
Quand même.
Parce que voilà. Il a une attache particulière avec l'AC Milan, Thiago Silva, et c'est peut-être la deuxième fois qu'on l'entend crier du cœur qu'il aime un club et qu'il aime.
Tous les joueurs disent qu'ils aiment des clubs quand ils voient des gros chèques,
Non, mais pas forcément. Daniel Alves, il a craché sur Paris Saint-Germain après. Il aimait pas Paris, qui s'y sentait pas bien, qui avait des racistes à Paris. Donc je suis désolé, il prenait aussi son chèque, il prenait son billet.
Oui, mais il l'a dit après coup. Il l'a pas dit quand il était dans la
ligue.
Pendant qu'il était à Paris, des fois, il le disait. Il disait devant tout le monde, j'aime le Paris Saint-Germain, mais on sait très bien, il y avait des bruits de couloir disant que Daniel Alves n'était pas fanat de Paris.
Surtout qu'il était très vexé de ne pas avoir reçu de prolongation.
Puis c'est juste une histoire de gros sous, Thiago Silva. Je pense qu'il lance sa candidature en China Premier League, la China Super League.
Il a carrément sa place.
tous les jours, ouais. Dans les championnats du golf également. Puis si c'est pour revoir du pays, retourner un petit peu au pays, pour le coup, bah, je pense que Fluminense, vu la panade dans laquelle ils sont, ils l'accueillent tous les jours aussi. Hein.
Ah,
et en plus, il a insisté sur le fait qu'il ait obtenu son passeport, qu'il adore cette ville. Donc c'est pas vraiment que sportif, tu peux pas parler que d'argent. Quand une personne te dit,
on est en 2019, non, les footballeurs de haut niveau.
Quand une personne te dit, ma famille se sent bien, je me sens français. Pour moi, Paris, c'est ma deuxième ville.
Quand
la
même,
France,
Hervé,
c'est mon deuxième pays. Tu peux pas que parler d'argent. Faut
on
pas
peut pas négliger cela.
Et ça, c'est sûr. Et Hervé, je pense que tu parles d'argent concernant Thiago Silva, mais je pense que si tu lui dis, bon, un gros contrat au Qatar, ou alors on ne prolonge pas à Paris, il va falloir prendre la boîte de Kleenex. Hein. Il va pleurer, le gars. Il va pleurer. Je peux te dire qu'il serait très très malheureux de ne pas avoir de prolongation.
Il sera mal. La dernière rubrique de cette émission, c'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, le podium le plus jeune de l'histoire, le Grand Prix du Brésil, dimanche, du côté de São Paulo. C'est conclu par le plus jeune podium de ce championnat de F1, 23 ans, 8 mois et 23 jours. Aïe, 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 on se plaignait du manque de concurrence, d'intérêt et de challenge de la F1. Ce vent de jeunesse, lui serait-il profitable? C'est pas faux quand même. Je tiens à le rappeler, sur cette photo officielle, Carlos Sainz, avec l'écurie McLaren, a bien fini troisième du Grand Prix ce dimanche. Derrière, Pierre Gasly, 23 ans, Toro Rosso, et sans oublier Max Verstappen, 22 ans, chez l'écurie Red Bull. Une réaction avec toi, Hervé, on t'écoute.
Alors, j'aimerais juste, Bilal, souligner un point. C'est pas le plus jeune pilote à être monté sur le podium, c'est le plus jeune pilote
podium.
Français.
Non, je parle de podium. C'est aussi le plus jeune podium.
Non, français.
Oui, mais non,
mais en termes de moyenne d'âge.
Moi, je te parle. Là, j'ai parlé. Les trois vainqueurs, ça a été le plus jeune podium.
La moyenne d'âge.
Après, la moyenne d'âge.
D'accord,
moyenne. Après, il y a eu Pierre Gasly. Là, tu as raison. Et tu fais bien de le rappeler à tous les auditeurs. Mais moi, je m'adressais sur
en termes de moyenne d'âge.
Voilà, la moyenne d'âge du podium.
Exactement.
Des pilotes de F1. Notamment, on remonte, je crois, à 2008 avec Kubica ou encore Vettel. Et le troisième, je ne sais plus qui c'était. Kovalainen. Ouais.
D'accord. L'ancien Finlandais. Ouais.
C'est ça.
Pour revenir sur ce que tu disais, voilà, c'est une super performance de la part de Pierre Gasly, qui termine deuxième d'une course rocambolesque, marquée par de nombreux accrochages entre les Ferrari de Leclerc et Vettel, entre Alexander Albion et Lewis Hamilton. Après, moi, je veux pas jeter un pavé dans la mare, mais je me rends compte quand même que la France, enfin, on a fait quand même une sur Pierre Gasly, alors que le gars a terminé deuxième.
Mais ça, c'est la France,
ouais.
Hervé.
Et c'est là que je me rends compte que
ça fait longtemps
c'est
qu'on
la France,
a plus
et c'est
de
pas
pilotes,
n'importe quelle France. Ouais. C'est la France de Poulidor, monsieur.
Le dernier podium français remonte à Grosjean.
2015, oui, sur Lotus.
Et ça fait longtemps.
Mais c'est là quand même.
C'est le second, le panache.
C'est là que je me rends compte quand même que la France a cessé d'être un pays de course automobile, parce que je pense pas que, à l'époque d'Alain Prost, il y a 30 ans, quand il était sur Mercedes, que l'équipe aurait fait une sur Prost en disant Prost a fini deuxième, tu vois. Donc voilà.
Bon, c'est un renouveau, il y a une nouvelle génération. Faut l'embellir, quoi. Il faut être présente.
Il a quand même été avantagé par de nombreux faits de course,
ouais.
des accrochages. Faut aussi rappeler que Gasly a commencé la saison sur Red Bull, qu'il a été rétrogradé chez la filiale, donc Toro Rosso, durant la trêve estivale, parce qu'on estimait qu'il n'avait pas les résultats escomptés, parce qu'on estimait qu'il était beaucoup trop loin des objectifs fixés par Christian Horner et
aussi tu peux noter les mésententes quand même dans l'écurie Red Bull aussi, faut le rappeler. Il y en a eu.
Historiquement, oui, entre Vettel et Weber, mais ça remonte à quand même quelques saisons. Mais en tout cas, je pense que on s'enflamme un peu trop, je pense. Voilà.
Ah ben, il faut s'enflammer, moi je te le dis. Pierre Gasly, Bamos et aussi.
Non, moi je suis content
de cette jeunesse avec Sainz. Et Verstappen.
Je suis content, ça a l'air d'être un super gars, un super pilote.
Merci.
Mais je tiens quand même à rappeler que c'est quand même une deuxième place marquée par
merci Hervé, Alisson, sans oublier Simon et Saliou d'avoir été avec moi durant cette émission. On se retrouve demain à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.